Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous. Tsahal lance une opération d'envergure dans la ville de Jenin avec troupes terrestres et aviation. L'opération Mur de Fer pour lutter contre le terrorisme dans cette ville a débuté par une frappe aérienne de drones contre un certain nombre d'infrastructures. Elle a lieu sur fond de libération de dizaines, puis de centaines de terroristes en Judée-Samarie et en Cisjordanie. L'un des leaders mythiques des organisations palestiniennes, Zakaria Zoubaïdi, doit être relâché prochainement à Jenin. Benjamin Netanyahou a déclaré que cette opération serait vaste et significative. Le chef d'état-major de Tsahal a annoncé sa démission. Il partira le 6 mars. Chetzi Halevi écrit dans sa lettre: le 7 octobre, l'armée israélienne sous mon commandement a échoué dans sa mission de protection des citoyens d'Israël. Ma responsabilité dans ce terrible échec m'accompagne chaque jour, heure par heure, et il en sera ainsi pour le reste de ma vie. Le Hamas reprend le contrôle de différentes zones de Gaza durant la trêve. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la police, avec ses uniformes bleus que l'on a vus sur tous les réseaux sociaux, s'est déployée à travers la bande de Gaza pour la première fois en 15 mois. Ses membres sont apparus publiquement en uniforme plutôt qu'en civil, envoyant un signal à l'autorité palestinienne qu'il n'est pas question pour le Hamas de quitter le pouvoir à Gaza. L'investiture de Donald Trump est la deuxième grande information de ce journal. Trump qui a envoyé un message fort, il soutient Israël, il a fait monter les familles des otages juste derrière lui pendant son discours. Et on en a beaucoup parlé, il a signé plus d'une centaine de décrets dont le retrait de l'accord de Paris ou encore de l'OSM. Lors du Forum économique mondial de Davos, le ministre saoudien des Affaires étrangères affirme qu'une guerre entre Israël et l'Iran doit être évitée. Le prince Faisal Ben Farban al-Saoud a ajouté qu'il ne pensait pas que Donald Trump se lancerait dans cette aventure d'une guerre contre l'Iran. On part tout de suite pour Jérusalem. On le retrouve, notre correspondant permanent Dror Evensapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
Alors Dror, c'est vrai que c'est, on savait que ça viendrait, mais le chef d'état-major démissionne. Il accepte l'entière responsabilité de l'échec du 7 octobre et il dit, c'est bien simple, mais on vient de l'entendre, je viens de le dire à l'instant, je ne pourrai jamais l'oublier, pas une heure de ma vie, je resterai sans penser à cette tragédie du 7 octobre.
Oui, les choses se sont accélérées manifestement ces derniers temps. On savait que le chef d'état-major de Tsahal, le général Chetzi Halevi, allait présenter sa démission tôt ou tard. La conclusion de l'accord sur le cessez-le-feu et la libération d'une partie des otages, d'une part, le fait également que Israël Katz, qui a succédé à Yoav Gallant au ministère de la Défense, a adopté dès son entrée en fonction il y a quelques semaines une attitude très critique envers l'état-major de Tsahal, en quelque sorte montrant au général Halevi la porte de sortie. Le climat et les relations entre les deux hommes, le ministre de la Défense et le chef d'état-major, s'est considérablement dégradé au cours de ces dernières semaines. Et donc le général Halevi a affirmé aujourd'hui qu'il allait démissionner, que la démission sera effective au début du mois de mars. Un autre général important et directement responsable des déconvenues et des défaillances du 7 octobre, le général Yaron Finkelman, qui commandait le front militaire sud, donc avec la responsabilité de la bande de Gaza et des environs, le général Yaron Finkelman, dans la foulée, a annoncé qu'il allait démissionner. Lui aussi, avec un argumentaire qui est très proche de celui du général Halevi, à savoir qu'il portera la responsabilité des événements toute sa vie. Et le général Finkelman rend hommage, tout comme le général Halevi, aux soldats tombés au cours de cette guerre et aux civils que ses troupes n'ont pas pu protéger le 7 octobre. Tout cela aura bien évidemment des conséquences sur la composition de l'état-major qui va changer du tout au tout. Les dirigeants de Tsahal, les officiers qui seront nommés, qui seront promus aux plus hautes fonctions. Il y a plusieurs candidats pour remplacer le général Halevi, notamment l'actuel directeur général du ministère de la Défense, le général de réserve, alors qu'il est Eyal Zamir, le chef d'état-major adjoint, le général Amir Bahram, et également le commandant en chef du Front Nord, qui lui avait accumulé des succès dans la guerre contre le Hezbollah, à savoir le général Ori Gordine, trois candidats donc pour le poste de chef d'état-major de l'armée israélienne. Et puis sur le plan politique et social, les responsables des services de sécurité ont tous admis leur part de responsabilité dans les défaillances du 7 octobre. Ça n'a pas encore été le cas des responsables politiques. Il se peut donc que les pressions de l'opinion publique, notamment, et de la classe politique, s'accentuent concernant Benjamin Netanyahou et les autres responsables politiques qui ont également une part de responsabilité, mais qui ne l'ont pas admise ouvertement.
Alors, il y a des hommes politiques qui l'ont fait. Hein, le président, bon, je parle sous votre contrôle à Jérusalem, mais par exemple, le président de l'État d'Israël a présenté des excuses à plusieurs reprises.
Il n'a pas de fonction exécutive, donc il n'était pas responsable de la politique menée le 7 octobre et avant le 7 octobre.
Mais alors par contre, ceci me mène à Benjamin Netanyahou, parce que lui a toujours dit « je ne suis pas responsable, on ne m'a pas prévenu, si j'avais su j'aurais... » Enfin bon, il parle de manière un petit peu plus... il est moins direct, moins cash que ça. Mais grosso modo, la ligne de défense, et en fait ce que pense Netanyahou, c'est que lui, il n'a pas forcément... à porter la responsabilité du 7 octobre, on ne l'a pas prévenu.
Oui, c'est une partie de sa ligne de défense. Certains lui reprochent dans les rangs de l'opposition, mais pas uniquement, toute une politique en amont, avant le 7 octobre, qui avait constitué à permettre au Hamas de se maintenir en place en permettant au Qatar de financer régulièrement et généreusement le Hamas dans la bande de Gaza, ce qui a permis au Hamas non seulement de consolider son pouvoir dans la bande de Gaza, mais également de financer la préparation des massacres et des attaques terroristes du 7 octobre. Tout ça est reproché à Benjamin Netanyahou et aux autres responsables politiques qui ont été aux affaires au cours de ces dernières années. Mais pour l'instant, en effet, le Premier ministre n'a pas assumé sa part de responsabilité et il semblerait qu'au cours de ces derniers mois, lui et ses partisans aient tenté de convaincre l'opinion publique israélienne que la responsabilité incombée presque uniquement à l'échelon militaire et sécuritaire. On s'interroge d'ailleurs sur le chef du Shabak, les services de sécurité intérieure, Ronen Bar. Est-ce que lui est le prochain sur la liste? Est-ce que lui va également présenter sa démission, puisque les services de sécurité intérieure n'ont pas prévu et prévenu les attaques du 7 octobre?
Alors d'abord, les Israéliens font confiance à l'armée. Donc moi, je déconseillerais aux hommes politiques israéliens de tout leur mettre sur les épaules parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à convaincre les Israéliens. Si les Israéliens ont confiance en une seule institution en Israël, c'est leur armée. Et d'ailleurs, ils l'ont vu depuis le 7 octobre. De tous ceux qui ont donné leur vie, les réservistes qui ont laissé leur famille, les jeunes de 18 ans qui, à Dieu ne plaise, ont parfois laissé une partie de leur corps sur place, un bras, un pied. Moi, je serais à la place des politiques. J'essaierais d'éviter de trop charger la barque du côté de l'armée, mais encore une fois, vous connaissez les choses de plus près que moi à Jérusalem. Il se trouve que dans le même temps, l'armée israélienne, justement, mais bon, sur ordre de Netanyahou, a lancé une vaste opération à Jenin. Et il faut savoir que la Cisjordanie, la Judée-Samarie, ne fait pas partie de l'accord de cessez-le-feu. Donc les Israéliens attendent des centaines de terroristes qui seront livrés là-bas et apparemment ont décidé de mener l'offensive.
Oui, la zone de Jenin depuis plusieurs mois maintenant est l'une des zones les plus tendues dans les territoires de Cisjordanie, avec des groupes terroristes qui y sont très actifs. Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne avaient tenté d'y rétablir le calme sans succès, ce qui a incité effectivement l'armée israélienne à lancer cette opération qui pourra durer plusieurs jours au moins contre les cellules terroristes dans cette ville de Jenin et dans les environs. Tout cela alors qu'effectivement de nombreux terroristes devront être libérés dans le cadre de l'accord pour obtenir la libération des otages. Les forces de sécurité israéliennes, l'armée israélienne ont considérablement renforcé leurs effectifs dans les territoires de Cisjordanie dans la perspective de cette opération à Jenin, mais également pour tenter de dissuader certains des terroristes qui seront libérés de reprendre des activités violentes contre Israël.
Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le Hamas qui reprend le contrôle de différentes zones de Gaza à la faveur de la trêve. Dès l'entrée du cessez-le-feu, la police s'est déployée à travers toute la bande de Gaza. Pour la première fois en 15 mois, les hommes sont apparus publiquement en uniforme plutôt qu'en civil. Et donc, ils semblent vouloir envoyer un message à tout le monde, à commencer par l'autorité palestinienne. Ils ne sont pas prêts d'être évincés du pouvoir de Gaza. Parallèlement, des membres du Hamas sont sortis de leur tunnel, patrouillant dans des camionnettes, les camionnettes blanches qu'on a tous vues sur les écrans, et reprenant ostensiblement le contrôle de la bande de Gaza. Le directeur du Mossad, Dedi Barnea, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar, sont repartis au Caire. Retour aux négociations. Une réunion de travail avec le chef du renseignement égyptien. Les discussions portent évidemment sur les suites de l'accord avec le Hamas. Mendy Damari, la mère d'Emily, s'adresse en public lors d'une conférence de presse après la libération de sa fille Emily sur sa captivité après 471 jours. Elle est enfin de retour à la maison en Israël. The road to recovery. As you will have seen last night, she is an amazingly comme vous avez vu, strong and resilient young woman. C'est une femme très forte et résiliente. Au nom d'Emily, je voudrais remercier de manière spéciale tellement de gens pour l'avoir amenée à la maison. Les soldats qui se sont battus et qui ont donné leur vie depuis le 7 octobre. And to the thousands of volunteers everywhere, please keep on fighting for the remaining 94 hostages who need to come home. There are too many other families who are waiting to hug their loved ones or bring them back for a proper burial. As I've been saying over the past number of months, the hostages in Gaza must have access to... Donc, Dari, la maman de Emily. Lors du Forum économique mondial de Davos, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu'une guerre entre Israël et l'Iran devait être évitée. Le prince Faisal bin Farhan al-Saoud a ajouté qu'il ne pensait pas que l'administration du président américain Donald Trump contribuait au risque d'un conflit. Il est donc au Forum de Davos. Il s'est exprimé aussi sur sa prochaine visite au Liban. Ce sera la première fois, il y va dans une semaine, et ce sera la première fois depuis plus de 10 ans qu'un ministre saoudien des Affaires étrangères se rend au Liban. La deuxième grande information de cette édition, c'est évidemment la parade nationale aux États-Unis avec les cérémonies d'investiture de Donald Trump et moment d'intense émotion lors de cette fête d'investiture. Le moment où Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain au Proche-Orient, fait monter sur la scène les otages israéliens libérés et leurs familles. Et ils diront, ils iront tous les libérer. Le président Trump a dit, voilà les familles des otages d'Israël qui étaient détenus à Gaza depuis plus d'un an. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont là aujourd'hui. Certaines de ces familles ont perdu des enfants et elles sont ici. Elles ont fait un effort pour qu'on fasse tout pour libérer les corps de ceux qui, des leurs qui ont été tués. Il y a une famille américaine ici qui doit arriver dans les prochains jours. Et toujours en captivité. Donnons-leur beaucoup d'amour. Levez-vous. Voilà donc le principal négociateur américain pour la libération des otages. Et Donald Trump, ensuite, est passé à la tribune. Tout le monde l'a vu. Il était devant Noah Arghamani. Évidemment, ça n'est pas le fruit du hasard. La personne debout derrière lui avec une grande écharpe jaune, c'est un otage. Le président américain qui a donc salué leur retour.
Thank you very much, everybody.
Merci à tous. J'apprécie. Alors maintenant, on comprend, nous avons gagné, mais maintenant nous devons encore les ramener à la maison. Ce soir, je vais signer pour la liberté de 6 otages, pour qu'on les sorte dehors. Et quand je quitte ici, je vais dans le studio ovale et je vais faire du bien pour beaucoup de gens dans le bureau ovale. Et merci à Steve Witkoff, qui est un ami à moi, qui a été un grand négociateur, quelqu'un de merveilleux, et il a un pouvoir de persuasion énorme, et c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens lourds. Vous en avez eu vraiment beaucoup ces dernières années. Et pour les anciens otages qui sont avec nous aujourd'hui, welcome à la maison. Certains des anciens otages ne sont pas dans une bonne situation. Les trois jeunes filles qui sont rentrées à la maison hier, vous avez vu. Vous savez que maintenant, elles rentrent à la maison tous les jours. Mais elles ont été blessées. Une avait... elle a mis sa main pour protéger son visage et elle a perdu deux doigts. Voilà donc le président américain lors des cérémonies d'investiture hier. Nous sommes en ligne à présent avec Elisabeth Chemla. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Bernard.
Elisabeth, vous êtes journaliste, écrivaine, je ne sais pas comment on dit. J'ai toujours du mal avec écrivaine, moi. Alors je préfère autrice, avec votre permission.
Moi, je préfère auteur.
Ah, très bien. Oui, moi aussi, je suis un peu... un peu old school, peut-être. Mais écrivaine, j'y arrive pas. Elisabeth, vous qui êtes aussi une experte du Proche-Orient, est-ce que pour vous, c'est une nouvelle donne? Donc, je m'explique. On a finalement quand même un cessez-le-feu qui est très fragile, qui est à renégocier pour la phase 2, mais on a aussi l'investiture qu'on vient d'entendre de Donald Trump. Est-ce que c'est une nouvelle donne? Est-ce que c'est un nouveau départ? C'est quelque chose d'un nouveau chapitre?
Un nouveau chapitre, sûrement. Ça l'est d'ailleurs pas seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais ça l'est également pour l'ensemble de la région. Il n'y a pas de doute là-dessus. En ce qui concerne Israël et le Hamas, pour répondre sur ce point plus précis à votre question, je crois qu'en réalité, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, en fait. Puisqu'on est devant Trump dans cette première phase, première grande phase, si j'ose dire, puis sur les deuxièmes et troisièmes étapes, on n'en sait strictement rien. Lui-même, d'ailleurs, a déclaré qu'on verrait ça un petit peu plus tard. Et il a aussi dit hier qu'il n'était pas certain que tout ça même allait tenir et qu'il n'excluait pas que la guerre reprenne. Alors, c'est un changement, bien entendu, puisqu'on est arrivé à un accord. Je trouve d'ailleurs qu'il est, Trump, tout à fait inacceptable à l'écart de Biden dans ses propos. Car enfin, si Israël a pu à la fois résister aux missiles iraniens, aux missiles outils, s'il a pu faire tout ce qu'il a fait depuis un an, c'est bien parce que l'administration Biden l'a soutenu profondément sur le plan militaire. Alors, la nouvelle donne, elle va concerner toute la région, mais c'est très difficile aujourd'hui, pardon, parce que du coup, ça a l'air, et c'en est une de fait, insuffisance de ma part, mais on est dans un moment là très précis où il est absolument, je crois, impossible de dire vers quoi ça se dirige. Parce qu'il y a des choses contradictoires. Il est incontestable que Trump a tordu le bras de Netanyahou pour obtenir ce cessez-le-feu. D'un autre côté, dès hier, il a levé, vous l'avez évoqué, il a levé les
restrictions sur les armes.
Les restrictions sur... Non, je parlais des colons, pardon. Je voulais parler des colons. Les mesures d'interdiction de
territoire pour des habitants, voilà, des juifs habitants des territoires qui
voilà, exactement,
poursuivis.
Pardon.
On y arrive, Elisabeth.
Et on voit bien ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui à Jenin, une offensive israélienne. Alors, d'un côté, on a l'impression qu'il pourrait laisser faire une forme d'annexion de la Cisjordanie, de la Cisjordanie, je dis bien, et en même temps que sur Gaza, ce n'est pas pour rien non plus qu'on évoque la possibilité que les habitants de Gaza étant devant des ruines, pour beaucoup d'entre eux, qu'ils soient peut-être déplacés ailleurs. Vous voyez, c'est très difficile de savoir ce que cet homme, qui est aujourd'hui tout puissant, va mettre en place. Je trouve qu'il y a des éléments contradictoires.
Mais ça a toujours été difficile. C'est la marque de Donald Trump. On s'est toujours demandé qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine avec Donald Trump.
Absolument. Mais vous savez, même hier, lors de l'investiture, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, Bernard, mais vous savez qu'un imam devait intervenir lors de la cérémonie d'investiture. Cet imam est un imam de Dearborn, qui est un imam chiite, qui est un imam qui est un relais du Hezbollah, qui était un contact direct de Nasrallah, et il était invité hier à la cérémonie d'investiture au milieu des autres hommes de religion et de paix. Alors, c'est tellement contradictoire, on a vraiment du mal à discerner ce que Trump pourra faire. J'admire d'ailleurs beaucoup les confrères qui ont l'air... Oui, c'est ça exactement, parce que je crois qu'il faut être... extrêmement humble et modeste devant cette situation.
Il y a par exemple, on disait, mais la façon de jeter les stylos comme ça après avoir signé les décrets, alors vous allez me dire c'est dérisoire à côté des choses tellement importantes, comme par exemple sortir de l'accord de Paris, mais jeter les stylos comme ça, je crois qu'aucun président américain n'a jamais fait ça. Et le signe aussi de Elon Musk, où tout le monde se demande, il l'a fait exprès, il l'a pas fait exprès, etc. C'est vrai que en général, avec Donald Trump, on ne s'ennuie pas. Je peux déjà.
Non, c'est sûr. C'est-à-dire que hier, on le voyait bien, il y a une très très grande cohérence, incontestablement, une très grande cohérence de la doctrine. C'est décliné secteur après secteur, ça se tient parfaitement. C'est ce que l'on appelle vraiment un patron avec une vision, et qui en plus se donne là les moyens pour son deuxième mandat d'une équipe qui est entièrement, on va dire, à sa botte, ou qui lui est entièrement dévouée, si on ne veut pas être désagréable.
Mais
comment ?
Compact.
Oui,
compact, c'est
exactement.
Une bande, il chasse en bande.
Oui, il chasse en bande, c'est tout à fait ça. Et si vous voulez, il y a cette cohérence-là, et puis il y a des choses extraordinaires. Vous avez déjà vu un président d'une très grande nation vous expliquer comme ça, les yeux dans les yeux, à partir de maintenant, deux genres. Je ne dis pas qu'il a tort, hein, mais deux genres, hommes et femmes. Et les États-Unis, maintenant, c'est ça. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une cohérence de la doctrine et un côté zinzin, burlesque, grotesque, qui peut apparaître comme dangereux, bien entendu, prenant les choses très au sérieux, du bonhomme, il n'y a pas de doute.
Elisabeth Chemla, je vous remercie d'avoir été l'invitée de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le président du Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie a déclaré qu'Ankara pourrait reprendre son commerce avec Israël si le cessez-le-feu dans la bande de Gaza devient permanent. La Knesset confirme en troisième lecture que nier le massacre du 7 octobre est un délit qui sera passible d'une peine de 5 ans de prison en Israël. Air France et Transavia annoncent la reprise de leurs vols vers Tel Aviv, respectivement les 25 et 28 janvier prochains. Air France prévoit de reprendre ses vols entre Paris et Tel Aviv à partir du 25, donc, avec notamment 5 vols hebdomadaires en Airbus. Transavia suivra avec une reprise de ses liaisons dès le 28, avec 3 vols hebdomadaires en Boeing. Le président du CHAS, le député Arié Dery, est en visite aux Émirats Arabes Unis en tant qu'invité du ministre des Affaires étrangères émirati. Otage, le mot qu'on a tous prononcé, Khatoufim. Khatoufim sera le mot de l'année 5784. En fait, hier, c'était la journée de l'hébreu en Israël et on a demandé aux Israéliens quel était pour eux le mot de l'année. Il y a des milliers de personnes qui ont voté et qui ont choisi otage. Donc, le mot Khatoufim, c'est celui qui a été conservé. Hier, lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le président de la Yeshiva University, vous savez, à New York, il y a une Yeshiva University et il est rabbin. Il s'appelle Ari Berman. Il prie pour le 7 octobre, pour les otages et pour Trump. Je vous propose de l'écouter.
Almighty God, your prophet Jeremiah walked the streets of Jerusalem.
Le prophète Jérémie marchait dans les rues de Jérusalem. With the Hebrew words, et il disait
Baruch
en hébreu,
Eshe yiftach b'Hashem. Blessed is the
béni
one
soit celui
who trusts
qui croit
in God.
Et qui fait confiance en Dieu.
Thousands of years later, this great
des milliers d'années plus tard, cette grande nation a adopté ces mots
motto,
comme sa devise.
In God we trust.
In God we trust.
Stands at a moment of historic opportunity.
Dans ces moments historiques,
are searching
les Américains cherchent
our
un sens.
Merciful Father,
notre Père, plein de bonté, bénit ce moment. Monsieur le Président Trump, Monsieur le Vice-président Vance, avec la force et le courage qui ont choisi le bien sur la base de nos valeurs bibliques de lumière, de liberté, de sacrifice et de service et de moralité. Comme disait Washington, ce sont le véritable support des États-Unis d'Amérique.
Which have been experiencing such unrest,
on a vu
to inspire the next generation,
tel
to pair progress with purpose,
pour promettre le progrès aux futures générations, la sagesse et la vertu.
Hear the cry of the hostages,
ici, le cri des otages,
both American and Israeli,
américains ou israéliens, a été entendu
so
par notre
feels.
Président qui le ressent.
We are so thankful.
Nous vous remercions tellement pour ces trois jeunes filles qui hier sont rentrées à la maison. Et nous prions que pour les quatre autres qui doivent revenir et que cela aussi amènera la paix pour Israël et pour le Moyen-Orient. Dieu donne, s'il te plaît, à l'Amérique la possibilité de vivre en paix, avec la joie, le bonheur, la compassion, et la contribution. Donne-nous la confiance d'arriver à ce moment. Nous qui croyons en Dieu, Dieu croit en nous, le peuple américain. L'Américain est appelé à être une grande lumière et un roc dans l'histoire. Que notre nation mérite d'entendre la bénédiction de Jérémie. Que toute l'humanité expérience votre amour et votre bénédiction. Mon Dieu. Amen. Voilà donc le rabbin Ari Berman, qui est le président de la Yeshiva University de New York, qui était invité à s'exprimer, on vient de l'entendre, lors de cette cérémonie d'investiture de Donald Trump. Je crois qu'il y a vraiment qu'aux États-Unis où dans une cérémonie comme ça, on a un discours aussi religieux et aussi avec une telle foi. Donc, c'est intéressant de l'entendre. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Dominique Moïsi. Dominique Moïsi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur et vous êtes conseiller auprès de l'Institut Montaigne, conseiller diplomatique, c'est votre métier, vous avez dirigé l'IFRI de longues années. Dominique Moïsi, vous avez donné une interview dans une grande radio. Vous avez dit, mais c'est pas la paix hein, qui a été signée. C'est vraiment tout. En gros, si je lis un peu entre les lignes, je vous ai demandé d'être notre invité pour nous expliquer votre pensée, pour la développer. En fait, chacun des deux côtés, entre Israéliens et Palestiniens, se disent bon, c'est une étape, c'est une pause en attendant de revenir, quoi, grosso modo. Est-ce que c'est votre
oui.
pensée?
Oui, en fait, c'est une étape dans un conflit qui continue. Il n'y a aucune confiance entre les deux parties. Il ne saurait en être autrement. En fait, le terrain a été préparé longuement par l'administration Biden, et puis c'est le président qui n'était que le président élu, Donald Trump, qui d'un côté a fait peur au Hamas et de l'autre a tordu le bras à Benjamin Netanyahou, qui ne pouvait pas refuser ce que lui demandait Donald Trump, contrairement à ce qui était le cas avec Joe Biden. Donc voilà, il s'est dit je cède temporairement sur la question du cessez-le-feu à Gaza parce que j'ai des sujets plus importants encore à traiter avec Donald Trump président demain.
C'est quoi l'annexion des territoires, par exemple ?
Alors, c'est deux choses. C'est la priorité absolue donnée à la question iranienne et en particulier à la question du nucléaire iranien. Et il y a effectivement la question de l'annexion des territoires qui est pas posée ouvertement, mais qui existe de manière sous-jacente. En fait, il y a une vision qui consiste à dire pour une partie des élites politiques et stratégiques israéliennes que les Palestiniens ont un territoire, c'est la Jordanie, que c'est dans ce pays qu'ils doivent se retrouver et que la Judée-Samarie doit revenir à Israël. C'est une vision qui est rejetée par la communauté internationale, mais qui semble peut-être dans l'esprit de Netanyahou moins impossible à négocier.
Alors, il y a même encore,
Trump.
J'ai envie de dire, il y a même encore plus, je ne sais pas, c'est le mot dingue qui me vient à l'esprit, mais les auditeurs me comprendront. Disons, c'est encore le plus éloigné de tout ce qui se dit aujourd'hui, parce que Donald Trump est capable de sortir des choses qui sont comme ça, totalement sorties de nulle part. Il y a une idée de prendre les Palestiniens de Gaza et de les mettre en Indonésie. L'Indonésie, oui, c'est le plus grand pays musulman du monde.
Oui.
Apparemment, ils seraient prêts à les accueillir. Là encore, on fera comme pendant les accords d'Abraham. Tout ça, ça sera un deal. On trouvera un moyen de les intéresser avec des choses que l'Amérique peut donner. Et c'est totalement impensable pour toute la diplomatie mondiale et même d'ailleurs pour l'opposition israélienne. Et est-ce que vous croyez que c'est un délire de journaliste ? On a vu ça dans Israël Hayom, puis ça a été repris ensuite un peu à l'étranger. Ou est-ce que vous pensez que Trump, il est capable de effectivement dire « bon, ben, on va vous trouver une place en Indonésie ».
Non, c'est un modèle presque parfait de délire logique. Je crois que à l'heure des chaînes d'information en continu, des réseaux sociaux, ça n'est pas jouable. Ça ne me paraît pas crédible. Ça ne me paraît pas pensable. Alors maintenant, il y a une contradiction, mais qui existe dans l'esprit même de Donald Trump. En fait, son rêve, c'est un peu de revenir à la vision qui était celle, paradoxalement, de Barack Obama. C'est-à-dire, je me retire en tant qu'Amérique du Moyen-Orient et je compte sur deux piliers de sécurité régionaux que sont Israël d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre. Et je fais en sorte que ces deux pays se rapprochent officiellement et pas simplement officieusement, que l'Arabie Saoudite rejoigne les accords d'Abraham. Mais le prince saoudien, MBS, a toujours dit, avec beaucoup de prudence, qu'il était prêt à le faire à la condition qu'Israël ait à ses côtés un État palestinien.
Alors, il avait commencé à changer, je ne vous apprends rien du tout, je le sais, il avait commencé à changer avant le 7 octobre et paraît-il que c'est l'une des raisons pour lesquelles le 7 octobre a été déclenché. C'est-à-dire que les Palestiniens ont dit c'est la fin des haricots. Si,
C'est tout à fait envisageable. Il évoluait dans cette direction. Il est redevenu, allez, utilisons un terme diplomatique, très prudent depuis le 7 octobre et depuis la guerre de Gaza. Il y a quand même en Arabie Saoudite une population significative. On est à près de 30 millions d'habitants. Ce n'est pas du tout ces confettis que sont les Qatar, les Émirats Arabes Unis, qui ont une population extrêmement homéopathique et donc que l'on peut plus ou moins diriger sans se soucier de quoi que ce soit.
Et puis l'Arabie Saoudite, c'est des gens qui sont très rigoristes, qu'on a habitué à être rigoristes. Du jour au lendemain, on leur dit vous allez devenir quasiment pro-américain.
Et c'est plus facile à faire
Parce qu'ils ont de l'argent, peut-être.
Que d'accepter un rapprochement avec Israël sans qu'Israël fasse le moindre mouvement en direction des Palestiniens. Il y a une dimension religieuse avec l'Arabie Saoudite qui est responsable des trois principaux lieux saints de l'islam. Voilà, y compris, bien entendu, le dôme d'Omar à Jérusalem.
Dominique Moïsi, conseiller auprès de l'Institut Montaigne, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom et bonsoir à vous.
Bonsoir, au revoir.
Au revoir. Allez, Georges Ayache est en ligne avec nous. Bonsoir Georges. Georges Ayache, Georges, est-ce que vous m'entendez? Ah mince, ça a coupé. Alors on se retrouve dans un instant tout de suite après la pause.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Sur les 20 médicaments les plus prescrits dans le monde, 7 sont directement issus des recherches fondamentales réalisées à l'Institut Weizmann des sciences de Rehovot en Israël. L'Institut Weizmann est l'un des centres de recherche fondamentale les plus prestigieux et les plus performants au monde. Mais tout cela ne se fait pas sans moyens. En ces temps de guerre, il n'est pas facile de convaincre qu'aider la recherche fondamentale est aussi une urgence. Le savoir, l'instruction, la science sont d'ailleurs les secrets de la réussite israélienne. Pour aider l'Institut Weizmann, rendez-vous sur www.weizmann-france.com. www.weizmann-france.com.
Orte France est un réseau d'écoles présent à Lyon, Marseille, Montreuil, Paris, Strasbourg, Toulouse et Villiers-le-Bel. Plus de 40 formations diplômantes dans les domaines du tertiaire, du paramédical, du digital, de l'énergie et de la mode. Orte France
spécialiste contacte l'association Choisir l'école juive. Ils ont aidé plus de 4000 enfants à entrer à l'école juive. L'association te proposera un accompagnement personnalisé de la maternelle au lycée, même un soutien financier si nécessaire.
Ah, magnifique! Et pour les joindre?
Tu les demandes en ami sur Facebook ou tu les appelles au 07 69 43 49 25.
Avec Choisir l'école juive,
tout est possible!
Salut Alexis!
Salut Élie!
Salut Lévana! Salut Fabrice!
Salut à tous! Retrouvez-nous dans Un Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Philippe Carcentier est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Philippe, vous êtes avocat international, vous êtes auteur, vous connaissez bien l'Amérique, vous êtes d'ailleurs, on peut le dire, un partisan de Trump, c'est ce qu'on voit dans ce que vous écrivez. Il est à la hauteur, Trump, de ce que vous attendiez avec la cérémonie d'hier?
Alors, d'abord, je vais juste corriger deux choses. Un, je ne suis pas avocat international, même si j'ai eu des grands procès qui ont fait le bruit du lot dans le monde entier. Et deux, je suis porte-parole du comité Trump France. C'est juste pour clarifier. Ouais. Écoutez, oui, Trump... Non, c'est juste pour être précis. Je ne veux pas m'attribuer des titres que je n'ai pas. Oui, Trump est à la hauteur. Trump est remarquable. Vous savez, il avait dit qu'il serait dictateur pendant un jour et tout le monde a pris ça au pied de la lettre. Oui, il a signé des ordres exécutifs qui sont en train de changer la planète. Et avant même d'avoir pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'entre le 5 novembre et le 20 janvier, le monde a changé. On va dire, deux des grands adversaires d'Israël sont tombés. Je veux parler de Bachar al-Assad et de Justin Trudeau au Canada, donc deux adversaires à des niveaux différents, mais les deux étaient quand même des adversaires assez résolus d'Israël, donc qui sont tombés. On a vraiment la planète qui est en train de se réorienter et qui est en train, d'aller vers le monde libre, c'est-à-dire vers un monde dominé par les États-Unis au niveau géopolitique, ce qui nous garantit une période de stabilité et de sécurité bien plus importante que les 4 années de guerre qu'on a subies avec Biden, tant au niveau de l'Ukraine que ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre.
Mais vous ne trouvez pas qu'il a quand même commencé en tordant le bras de Benjamin Netanyahou? Tout le monde le dit, ça. Et d'ailleurs, les mêmes ajoutent... Attendez, je finis ma phrase et puis je vous cède la parole, évidemment, c'est vous mon invité. Et en général, les gens ajoutent dans la même phrase, on vous avait dit de faire attention avec Trump. On peut attendre le meilleur et on peut... c'est Achashverosh, Trump. On peut attendre tout de lui.
Alors, comme on est entre nous et que personne ne nous écoute, et que ça reste confidentiel, il faut que vous compreniez les méthodes de négociation de Trump. D'abord, ça a été, cet accord a été signé sous l'administration Biden. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que naturellement, pour faire accepter quelque chose au Hamas et aux autres, c'est-à-dire les autres, je veux dire le Qatar, la Turquie, tous les alliés et l'Iran, les alliés du Hamas, il faut faire croire qu'on a tordu le bras de Benjamin Netanyahou.
Alors, quand vous allez voir débarquer Zakaria Zoubari à Jenin, vous n'allez pas avoir le sourire.
Alors, je vais vous dire,
on n'a pas libéré. Il vient avec des centaines d'amis à lui. Hein.
Alors, vous avez raison, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas ce qu'ont fait les Israéliens pour se prémunir d'actes, mais on ne va pas en parler maintenant à la radio. Mais moi, j'ai grande confiance dans la préparation de l'armée israélienne là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Ma conviction, pour m'être beaucoup entretenu avec des gens de l'administration Trump, notre ministre de la Défense qui vient d'être nommé Pete Hegseth, que les 42 jours dont on nous parle pour la libération des otages ne vont pas se passer comme ça. C'est-à-dire que Trump, ça n'est pas le genre de personne qui va attendre 42 jours pour que les otages soient libérés. Je crois que la pression va être mise bien plus fortement sur le Hamas et ses alliés et qu'on va voir des choses avancer. C'est une évidence. Regardez la politique, regardez les gens qu'il a nommés. C'est vraiment la Dream Team. Regardez Elise Stefanik à l'ONU, Marco Rubio. Je vous invite à écouter, vos auditeurs, à écouter Marco Rubio, son audition au Sénat pour être validé par le Sénat. C'est incroyable. Il a vraiment, ils vont révolutionner le monde. C'est-à-dire que l'ordre de 1945 avec une ONU donc dominée par des dictatures, faut bien dire le mot, hein, c'est une instance démocratique, l'ONU, donc un pays, une voix qui est dominée par des dictatures, ce qui fait que l'Afghanistan est à la Commission des droits de l'homme et l'Iran à la Commission des droits des femmes. Donc cet ordre va être totalement effacé et ça va vraiment être un ordre américain qui va tourner autour de la puissance américaine. C'est pour ça que j'ai une grande confiance dans la période qui s'ouvre. Et ma seule inquiétude, si je devais dire, c'est la sécurité de Donald Trump, parce que nos adversaires, les adversaires du monde libre, vont tout faire pour l'éliminer. Ils ont déjà essayé de le faire et ils continueront à essayer de le faire.
Eh bien, Philippe Carcenti, merci. Et vous n'imaginez pas de pression sur Israël, quelle qu'elle soit aussi, puisque America First. Alors
non.
C'est vrai que dans l'esprit de Donald Trump, quand on dit Amérique, on dit aussi Israël. Mais
je n'imagine aucune pression sur Israël. Aucune pression sur Israël. Il y aura des négociations, peut-être, mais moi, vous me connaissez un petit peu, moi, je pense que le mythe de l'État palestinien est fini, le mythe du peuple palestinien est fini, on va passer à une autre phase. Alors, on peut continuer à voir Emmanuel Macron qui va vous dire deux États pour deux peuples, mais c'est fini. Le 7 octobre a véritablement, définitivement enterré ce mythe-là. Les gens ont compris qu'on a donné un embryon d'État aux Palestiniens, aux Arabes de Gaza. On a vu ce dont ils ont été capables. Les Israéliens ne prendront plus jamais le risque, en tout cas, je dirais avant une ou deux générations, de donner un territoire à des gens qui se sont comportés de façon aussi barbare. Donc j'ai une grande confiance. Vraiment, soyez confiants. Donald Trump est entouré de gens qui nous veulent que du bien, parce qu'ils ont compris.
Et c'est quel responsable américain qu'on voit sur une vidéo? Il y a une dame qui vient le voir, elle fait « Monsieur, qu'est-ce que vous allez faire contre le génocide palestinien ?» Il la regarde, il fait « J'espère qu'on va écraser tous les gens du Hamas, et j'espère que vous me filmez. » C'est qui a dit ça? C'est un haut responsable.
Ça, c'est Marco Rubio.
Et j'espère que vous me filmez. On va écraser tous les gens du Hamas, et voilà, c'est ça que j'en ai fait. Mais monsieur, voilà, il y a une population palestinienne. Et il répond « Eh bien, demandez au Hamas qu'ils en font de leur population. »
Voilà.
Et j'espère que vous me filmez.
Et c'est Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, comparé avec notre Blinken, non, je parle de Jean-Noël Barrot ou alors de Blinken. Regardez, c'est exceptionnel. On a vraiment, on est objectivement, prenez l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Huckabee. Regardez toute l'administration américaine est vraiment alignée. Vous me connaissez encore une fois sur la bonne partie d'Israël, c'est-à-dire sur la partie qui veut que Israël gagne. Trump veut qu'Israël gagne les guerres. Ça fait 50 ans qu'on ne laisse pas Israël gagner une guerre. Et vous savez, il n'y a jamais eu de paix qui se soit conclue dans le monde sans une capitulation de l'ennemi. Tant que les Arabes n'auront pas capitulé, il ne pourra pas y avoir de paix au Proche-Orient. Il est temps que ça se passe. On vous fait croire que l'Arabie saoudite tient absolument à l'État palestinien. Personne ne veut d'un État palestinien. Et je vais vous faire une confidence, encore une fois, on y est tous les deux. La semaine dernière,
personne ne le saura.
Personne ne le saura. J'étais avec un ambassadeur français très important que tout le monde connaît. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, quand allez-vous arrêter de faire la promotion du mythique État palestinien ou du mytho-État palestinien et de la fiction du peuple palestinien? Mais c'est fini, tout le monde a compris que le peuple palestinien n'existe pas, tout le monde a compris que l'État palestinien n'existera pas. Donc il faut se le mettre dans la tête. Alors on peut continuer à avoir Macron qui fait semblant, parce que lui, il a ce qu'on appelle la rue arabe, et comme je dis souvent, la France sera probablement le dernier pays sous influence arabe à signer les accords d'Abraham.
Philippe Carcenti du comité Trump France, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Allez, on part pour Jérusalem à présent, où l'on retrouve Michael. Michael, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Michael, quand vous entendez Philippe Carcenti, vous êtes vous buvez du petit lait.
Oui, ben on le connaît Philippe. Il s'était présenté pour les Français de l'étranger. Un garçon très courageux, bon, évidemment, très voilà, pro-Trump, libéral, etc. C'est pas très français, c'est très américain, parfois c'est très juif, c'est très bien. Je valide.
Alors vous, à Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un nouveau départ? Est-ce que vous restez plutôt prudent en disant, bon, il est gentil de nous vendre Trump, mais nous, on sait que tout ça, ça tient que sur les épaules des gens qui habitent ici. C'est pas... Comment est-ce que vous voyez cette accélération de l'histoire depuis le cessez-le-feu vendredi, la libération des premiers otages dimanche et maintenant l'accession au pouvoir de Donald Trump?
C'est-à-dire qu'on est obligé d'admettre quand même, en toute honnêteté, même si moi je suis un farouche défenseur de l'indépendance d'Israël, et voilà, je suis un souverainiste, comme on dit en France, on est obligé d'admettre que les choses ne dépendent pas uniquement des gens qui habitent sur place. L'administration américaine, c'est quelque chose qui change la donne. Donc oui, sur le papier, Trump, c'est un quasi-miracle. C'est pas seulement Trump d'ailleurs, on a une vague
attention au téléphone, Michael, s'il vous plaît, il y a de l'écho notamment.
Oui,
attention à la pièce où vous êtes.
Donc... ah oui, non mais là je suis dans une pièce tellement capitonnée là.
Ah mince, alors bon ben on vous écoute. Donc vous disiez, d'accord, d'ailleurs c'est pas que
oui,
Trump
disais, c'est pas que Trump, c'est une vague de réaction qu'on pourrait appeler anti-woke. Donc j'y inclus bien sûr Musk, j'y inclus bien sûr Milley, vous voyez, et tous ces dirigeants qu'on appelle en France populistes, etc. Et en fait, c'est une vague de réaction anti-woke qui, par essence, se rapproche d'Israël. Mais quand je dis Israël, c'est le peuple d'Israël, l'Israël de toujours, pas l'État d'Israël. Mais évidemment, par ricochet, l'État d'Israël également. Mais si vous voulez, ces gens, effectivement, se rapprochent du projet d'Israël, du projet juif, on pourrait presque dire même de la Torah, par la réaction qui va. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un mouvement de contre-réforme, presque. Et on était très inquiets de voir où allait le monde, où allait le monde occidental, avec effectivement ce qu'on pourrait appeler la folie woke. Et cette réaction, elle fait chaud au cœur, elle donne de l'espoir. Et évidemment, ce n'est pas par hasard que ces gens-là se retrouvent aux côtés d'Israël. Et on aura beau essayer de trouver...
Attention votre téléphone, Michael, s'il vous plaît.
Oui, attendez, je vais basculer.
Oui, je vais attendre un peu. C'est pas grave.
Vous m'entendez mieux ?
Ben oui.
Oui, très bien. Alors je disais...
C'est dommage, il fallait y penser avant. Alors.
Non, mais d'habitude, elle fonctionne, moi, je suis désolé. Je disais que ce n'est pas par hasard que ces gens-là se retrouvent aux côtés d'Israël. Et on aura beau essayer de chercher des saluts nazis.
Alors voilà, Musk. Justement, le salut nazi. Oui. Vous avez vu Munch, vous avez quand même. C'est-à-dire, ça fait peur quand même.
Non, en fait, j'explique bien. En fait, ce qui se passe, c'est que les choses changent. D'accord ? Vous avez très bien vu, puisque vous êtes aux premières loges, vous avez très bien vu que l'homme politique qui a défendu, l'homme politique, je veux dire non juif, qui a défendu le plus ardemment Israël après le 7 octobre, ça a été, c'est pas un homme, c'est Marine Le Pen. D'accord ? Je dis ardemment, hein, je ne dis pas juste défendre. Et ça, vous voyez, c'est une donne qui a changé et que certaines personnes ont du mal à accepter. Et évidemment, la vieille garde va trouver toutes sortes de prétextes, toutes sortes de... va essayer de couper les cheveux en quatre, de trouver, voilà, non, mais en fait, c'est pour ceci, pour cela. Et voilà, et c'est pour ça que quand vous avez un Musk qui est à fond derrière Israël, même dans l'idée, vous voyez, même dans l'idée, eh bien, la vieille garde va essayer de lui trouver des relents d'antisémitisme, de nazisme.
Non, mais là, c'est super impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Je pense que c'est une gaffe, quoi. Parce que, donc, il dit, je vous aime, vous êtes dans mon cœur, et vous, je vous aime. Mais franchement, c'est des saluts. Mais je ne sais pas ce qu'il...
Non, mais on met la main sur le cœur. Mais non, il a envoyé... Vous n'avez pas vu comment... En fait, il a lancé son bras. Il n'a pas fait un salut nazi.
C'est dommage parce que c'est le téléphone qui ne suit pas. Mais bon, merci pour ces quelques mots. Mais le téléphone ne suit pas. On a du mal, il y a des micro-coupures, ça coupe, etc. On a du mal à...
Désolé Bernard, j'ai un problème de réseau, alors je suis désolé Bernard.
Non, mais de toute façon, on était très contents d'avoir quelqu'un de Jérusalem. Merci pour ces quelques mots. J'espère que les gens ont juste fait un tout petit effort parce que c'était intéressant ce que vous nous disiez. Et merci à vous et bonsoir.
Ça marche, bonne soirée.
Bonsoir, Mickaël. Voilà, on va entendre un peu de. On va faire un petit intermède musical avant le journal de 19h. N'oubliez pas de télécharger l'application Radio Shalom sur votre téléphone portable, puisque voilà, ça bouge énormément. Alors, Mickaël vient de nous dire, c'est Philippe qui nous disait auparavant, ne croyez pas qu'il faut attendre les délais qui ont été prévus. Trump, il ira beaucoup plus vite que ça. Donc les otages peuvent être libérés à n'importe quand, ce qui franchement est très crédible. C'est très possible qu'il y ait des pressions qui fassent qu'on n'attende pas encore 3 mois. Et donc voilà, téléchargez l'application Radio Shalom sur votre téléphone portable. Ça vous permet tout de suite, quand vous entendez l'info, vous appuyez et vous tombez directement sur la radio. Pour ça, c'est simple, c'est des applis que tout le monde a. Si vous avez un iPhone, vous allez sur Apple Store. Je ne vais pas vous expliquer le système des applications, mais d'après moi, faites-le. On a d'ailleurs aussi... ce journal est diffusé sur YouTube. C'est aussi une nouvelle façon de faire qui est très intéressante pour retrouver la radio. Je vous rappelle les deux principales informations de la journée. D'abord, une opération très importante de Tzal. Je dis très importante parce qu'elle mêle aviation, troupes terrestres à Jenin, a été lancée ce matin à la surprise générale. Même l'autorité palestinienne dit on a dû partir, sauter dans les voitures et s'en aller. Tzal ne nous avait pas prévenus. C'est une opération d'envergure qui a été lancée dans la ville, l'opération Mur de Fer, pour lutter contre les groupes armés à Jenin, qui a commencé d'ailleurs par une frappe aérienne. Elle a eu lieu sur fond de libération de dizaines puis de centaines de terroristes en Judée-Samarie, si l'accord arrive à son terme. D'ailleurs, l'un des leaders mythiques des organisations palestiniennes, Zakaria Zoubeidi, dont je parlais à l'instant avec Mickaël à Jérusalem, doit être relâché prochainement et il est à Jenin. Benjamin Netanyahou a déclaré que cette opération serait vaste et significative. Il a dit que c'est une étape supplémentaire qui vient d'être franchie. Ça, c'est la première information. La deuxième, on l'a développée toute la soirée avec Donald Trump. Et la deuxième grosse information israélienne que beaucoup prévoyaient, c'est le chef d'état-major de Tzahal qui a annoncé sa démission. Il partira le 6 mars. Etzi Alevi écrit dans sa lettre de démission, le 7 octobre, l'armée israélienne sous mon commandement a échoué dans sa mission de protection des citoyens d'Israël. Ma responsabilité dans ce terrible échec m'accompagne chaque jour, heure par heure. Il en sera ainsi pour le reste de ma vie, dit donc Etzi Alevi, qui va quitter le poste de chef d'état-major le 6 mars. Il souligne que sa décision intervient à un moment où Tzahal a enregistré des réalisations qui sont significatives et qui se trouve en plein processus de mise en œuvre de l'accord de libération des otages.